c'est assez sain de se rendre compte des difficultés. Il ne faut pas penser qu'au premier problème, les choses sont finies.
Le secret, c'est de conserver sa part de liberté.
Quand vous vivez tout le temps dans l'avenir, vous passez en grande partie à côté de la vraie vie.
La vie invente, et donc il faut faire confiance à la vie et aller de l'avant.
Son métier fait rêver tous les gourmands, puisqu'il passe ses journées à goûter du chocolat tout en parcourant la planète 5 mois par an pour trouver les cacaos parfaits pour faire les meilleures tablettes du monde, une récompense qu'il a déjà obtenue une fois dans sa carrière.
Stéphane Bonnat, et je suis chocolatier.
Tombé dedans tout petit, il a appris à faire du vélo dans le laboratoire de l'entreprise familiale et commencé à travailler à la boutique au-dessus de laquelle il vivait dès ses 14 ans. Il incarne la 5e génération et est le 7e dirigeant à la tête de la maison Bonnat, installée à Voiron, en Isère, et qui fête ses 140 ans en 2024. Mais les premiers pas de la famille remontent en fait à l'époque de Louis XIV. Pourtant faire partie d'une aussi longue lignée d'artisans chocolatiers met parfois la pression, surtout lorsque votre grand-père et votre père ont révolutionné le métier.
J'ai appris le métier de chocolatier très jeune. J'ai travaillé toutes mes vacances depuis l'âge de 13 ans à la chocolaterie familiale ou dans d'autres entreprises. J'ai fait, après mes études, un tour de France et d'Europe à la manière un peu d'un compagnonnage. Mais je ne sais pas si c'est le poids de l'histoire ou le poids des lignées familiales. J'arrivais pas du tout, étant plus jeune, à savoir ce que je pouvais apporter à l'entreprise. Parce que chaque génération doit apporter quelque chose à l'entreprise. Et mon père a, en tout cas je le pense, fait rentrer le chocolat dans la gastronomie lorsqu'il a mis en avant les origines des cacaos, initialement pour fêter le centenaire de notre activité chocolatière pure et dure, sur la saison 1983-1984, première boîte de chocolat pure origine. Mon grand-père est mort très jeune. C'est une génération qui a survécu à la guerre, à la destruction de la chocolaterie, au développement de l'activité. Mon grand-père, je crois, était... le premier à faire des bûches au chocolat.
Donc ça vous mettait un peu de pression.
Oui, c'est un petit peu colossal. Hein. Qu'est-ce qu'on va amener? Et puis, en plus, je crois que mon côté un petit peu hyperactif ne voyait pas comment passer des journées entières à fabriquer des bonbons de chocolat ou des choses comme ça. Je n'avais pas perçu la notion d'aventure que ce métier exige. Donc, un fabricant de matériel automobile remarque un CV que j'avais déposé. Je passe les divers concours et étapes et entretiens. Et alors que je suis en Suisse allemande pour terminer mon tour d'Europe de l'apprentissage du chocolat, bon, on me fait une offre d'emploi que j'accepte. Et entre le moment où je quitte la Suisse et où j'arrive en France, l'entreprise est rachetée.
Ah.
Et tous les nouveaux postes se voient annulés. Alors, je pars du principe que je vais quand même prendre 15 jours de vacances parce que, entre mes études, l'armée et le reste, j'avais pas eu le temps de beaucoup me reposer. Et en fait, au bout de 4 jours, je m'ennuyais comme un rat mort, comme on le dit dans l'Isère. Et mon père me dit, c'est la saison de Pâques,
viens
nous donner
un coup de main.
15 jours, ça sera bon. Et en fait, depuis...
Depuis ce job de 15 jours, je
suis chez Bonnat pour 15 jours depuis 1991 ou 1992, je ne sais plus. Et finalement, j'ai racheté l'entreprise familiale et je m'éclate.
Est-ce qu'il y a eu une idée de transmission qui était importante pour vous aussi? Est-ce que vous vous êtes dit, certes, il y a l'héritage qui est lourd, mais on ne peut quand même pas laisser l'héritage disparaître?
Et ça, c'est un poids énorme qu'on se rajoute. Donc, j'en ai fait abstraction assez rapidement. C'est un métier qui est très exigeant. Encore maintenant, il n'est pas rare que je passe entre 12 et 14 heures au travail. Et il faut que ce soit fait avec plaisir. Il ne faut pas que ce soit une passion, parce que la passion est toujours dévastatrice. Donc, il faut qu'on ait des barrières. Il faut adorer ce qu'on fait. Et pour ça, il faut être content de le faire. Et je m'éclate. En fait, j'ai l'habitude de dire que là, j'ai un hobby et quand je serai grand, j'aurai un métier.
La difficulté, c'est que l'entreprise familiale... Il y a famille dedans, et qu'à un moment donné, entre le travail et la famille, on ne parle que de ça. Vous arrivez, vous, à faire des coupures? Vous arrivez à ne pas parler que de ça quand vous êtes avec votre maman, avec vos sœurs, avec vos enfants?
Alors, en fait, il y a deux choses. La première, c'est que le membre de la famille qui va reprendre l'entreprise l'achète. C'est pas un héritage. Il faut qu'il y ait une volonté, il faut qu'il y ait un investissement à la fois personnel et financier. Donc ça met une première barrière. Et la seconde, moi, j'ai toujours vu mes parents s'interdire de parler boulot à partir du moment où ils prennent la montée d'escalier qui mène aux appartements, parce qu'on habite au-dessus de la chocolaterie. Si on n'a pas cette césure, on devient fou, parce qu'on ne fait que par les boulots, on se mure dans un environnement professionnel qui est finalement très limité, et on s'évite de penser à ce qu'on voit autour. Il faut s'inspirer de ce qu'on voit autour de nous pour avoir cette espèce de folie créatrice.
Est-ce que la transmission, elle est forcément familiale? Est-ce que c'est forcément un de vos enfants qui reprendra ou est-ce que ça peut être un de vos collaborateurs?
C'est relativement compliqué dans le sens où, là, depuis 1704, c'est toujours de père en fils. Parce que, en fait, l'aventure Bona dans le cacao et le chocolat commence à Séville en 1704. Ça, on le sait parce qu'on a une lettre du duc de Richelieu qui cherche à savoir où nous sommes installés pour nous commander du chocolat. On sait qu'ensuite, on s'est déplacé en direction de la France, d'abord en faisant une halte au Pays Basque, puis sur Lyon, en s'arrêtant à Voiron entre-temps, et finalement pour s'installer à Voiron.
Et donc, c'est une transmission familiale à chaque fois de père en fils,
vous le dites ? Oui, parce qu'il y a un état d'esprit, un savoir-faire, une vision qui nous sont propres. Et transmettre comme ça de but en blanc, ça serait quand même une césure importante.
Il faut que ça commence au berceau, quoi.
Voilà. Maintenant, avoir des enfants qui se sentent les épaules et l'intérêt et les capacités pour reprendre l'entreprise, ça, c'est une autre paire de manches. C'est très particulier comme démarche, hein. Quelque part aussi, il faut avoir les moyens de ses ambitions, parce qu'arrive un moment où, quand une entreprise familiale se développe, la transmettre, c'est très onéreux. Donc, arrive un moment où le jeu n'en vaut peut-être pas forcément la chandelle.
Chez les chocolatiers, j'ai l'impression que c'est un peu comme chez les parfumeurs. Il y a une part importante du produit fini qui est liée à la qualité de la matière première. Vous avez des rapports privilégiés avec vos producteurs. Je crois qu'il y en a qui datent pratiquement de l'origine de la création de la maison de chocolat.
C'est vrai,
Il y a 140 ans. Vous avez aussi des plantations dans plusieurs pays. Comment est-ce que vous choisissez les gens avec lesquels vous travaillez? Et surtout, comment vous arrivez à détecter que leur savoir-faire va coller à votre idée du chocolat?
C'est toujours une rencontre. Nos plus anciens fournisseurs en cacao, la famille les rencontre sur un navire en 1760 ou 1780 qui part à destination des Amériques. Ce sont des Corses italiens qui s'installent au Venezuela, alors que la famille Bona, elle, va continuer son périple vers l'Argentine et les États-Unis d'Amérique. Et
ils
la famille Franceschi est toujours notre fournisseur de
cacao
du Venezuela. Ça va nous suivre sans s'interrompre. C'est comme ça que ça se fait. Et pareil pour l'Équateur, Mexique.
Parce que vous, aujourd'hui, vous avez des plantations à vous.
Nous avons des plantations au Mexique, au Pérou et au Brésil.
Et comment vous les avez choisies, ces plantations?
Parce qu'elles étaient abandonnées. En fait, ce qu'on a du mal à imaginer, c'est que l'âge moyen d'un planteur de cacao, c'est 65 ans, je crois. Les jeunes se désintéressent totalement de la culture du cacao. Et beaucoup de plantations sont laissées à l'abandon.
Et donc, pour vous, une plantation à l'abandon, c'est quoi? C'est une page blanche sur laquelle vous vous dites, on va pouvoir repartir de zéro?
On rachète les plantations, on fait revenir les gens en leur garantissant un salaire plus type européen qu'un salaire mexicain.
Oui, puis des conditions, j'imagine, sociales qui n'existent pas dans le pays.
Sans qu'ils le sachent, en règle générale, s'ils sont motivés, s'il y a un engagement, s'ils réalisent que c'est vraiment un métier, en fait, on leur transmet la propriété de la plantation, parce que c'est pas mon boulot de gérer une plantation. Je peux pas être au four et au moulin, et puis on dépossède pas les gens de leur propriété
de leur
comme ça. Donc, puis au bout d'un moment, ils s'en rendent compte et tout va bien. Le cacao est le seul produit qui soit récolté sur un continent et transformé sur un autre. Partout ailleurs, il y a toujours une culture locale d'un produit qui est identique. Le chocolat, c'est européen, c'est inventé en Europe, c'est inventé en 1879.
Et c'est un goût européen.
Et c'est un produit européen pur et dur, et qu'on va consommer sur toute la planète. Mais au Mexique, au Pérou, au Brésil ou ailleurs,
c'est
traditionnellement,
le
cacao n'est pas forcément fermenté, déjà, et d'une. Et surtout, il n'est pas conché. Donc, c'est la raison pour laquelle on rajoute des épices ou des produits un peu toniques pour effacer cette acidité, cette astringence.
Comment est-ce qu'on fait pour travailler le goût de la fève de cacao pour arriver à en faire des goûts différents? Je crois que j'ai regardé sur votre site, il y a plus de 40 tablettes différentes. Donc, comment est-ce qu'on part? Pour nous, on part du même produit et on arrive à faire une telle diversité de goûts avec le même produit au départ.
Si vous vous intéressez un petit peu au chocolat, vous allez lire qu'il existe trois types de cacao, qui sont le Criollo, le Trinitario et le Forastero, et youpi, tout va bien. Bon, alors, en fait, sur ces trois types botaniques, il y en a deux qui n'existent pas. Le Criollo existe, le Trinitario et le Forastero, c'est plus une vue de l'esprit, et il n'y en a pas trois, il y en a 1420. Donc,
En fait,
c'est super facile d'en avoir 40. Mais, grosso modo, lorsque j'arrive sur une plantation et que la récolte a lieu, je vais goûter le mucilage. Donc, c'est une espèce de pulpe qui est à l'intérieur des cabosses autour des fèves et qui, pour moi, détient toutes les palettes aromatiques disponibles. Et là, il va y avoir un choix cornélien. Quelle palette aromatique est-ce que je vais retenir? Parce qu'on ne peut pas tout avoir. Et en fonction de ce que je veux conserver, on va adapter la fermentation du cacao à mes desiderata.
Et alors, ça veut dire qu'il peut être comment, le cacao? Il peut être quoi? Il peut être plus...
Ah, on peut avoir des cacaos très acides. On peut avoir des fèves très acides ou avoir des fèves très florales avec le même cacao. La fermentation va déterminer ce qu'on va fixer dans la fève ou non. Le terroir, la terre, va donner 60% de la palette aromatique et le type de cacao va donner les 40% restants. Une plantation, grosso modo, en moyenne, ce sont 2 hectares. Et sur ces 2 hectares, on va avoir 11 types génétiques de cacao différents. En fonction de la récolte, en sachant qu'il y a entre 2 et 3 récoltes par an, on va avoir un mix de ces 11 types génétiques différents. Par exemple, la récolte de novembre-décembre, on va avoir 5 cacaos majoritaires qui vont donner une empreinte. Et sur la récolte suivante, mai-juin, on va avoir 6 cacaos majoritaires dont les 5 ne font pas partie. Et grosso modo, sur une même plantation, on peut avoir 2 palettes aromatiques, à supposer qu'on veuille les conserver, on peut avoir 2 palettes aromatiques radicalement différentes. C'est pour ça que certaines de nos tablettes ne sont fabriquées qu'avec une récolte, parce que la deuxième récolte ne me satisfait pas. Et moi, j'ai un métier génial, c'est-à-dire que je fais des produits qui me plaisent, et après, il y a plein de gens qui les achètent, parce qu'ils ont le même goût que moi. Je choisis très souvent une palette aromatique plutôt florale, fruitée, douce, avec un petit peu de tonique, mais pas trop. Nous allons adapter la fermentation pour fixer ces arômes. Ensuite, le séchage, un séchage naturel qui est fait sur la durée plus que sur la rapidité, parce qu'on stocke moins le côté punchy du cacao. Et ensuite, alors tout ça, je le marque sur un petit carnet qui est toujours avec moi. Et quand le cacao arrive à Voiron, on va le torréfier de manière à conserver cette palette aromatique. Et ensuite, je fais un chocolat.
Aujourd'hui, vous estimez que dans votre bibliothèque olfactive, je ne sais pas où elle est située, mais dans votre esprit, ou peut-être sur la langue, dans votre bibliothèque, il y a combien de goûts différents? Parce que vous travaillez ce goût depuis que vous êtes tout petit.
Oui, moi je fais des trains. Parce que pour moi, un produit, c'est comme un train avec des wagons qui s'accrochent et qui se tirent les uns les autres. Il faut qu'il y ait une logique organoleptique dans ce que je vais faire. Le résultat est important, mais ça n'est pas le plus important. En fait, chacun de mes chocolats doit raconter une histoire. Et cette histoire, c'est à travers des goûts, des arômes, des parfums, des sensations. En ce moment, par exemple, on aime bien avoir du chocolat de Madagascar qui est très tonique, acide, qui réveille le palais. Tout. J'ai horreur de ça. J'ai absolument horreur de ça. Et je me bats pour que dans notre plantation à Madagascar, on continue de faire le cacao tel qu'on l'a depuis plus de 100 ans.
C'est-à-dire que le goût qu'on aura aujourd'hui,
plus doux,
c'est celui...
gentil, calme. Ce qu'on a un peu tendance à oublier, c'est que il y a 40 ans, on faisait du chocolat au lait avec le cacao de Madagascar. Maintenant, c'est impossible. Maintenant, on veut faire du chocolat noir agressif qui réveille. Et ça, j'en ai horreur.
Comment vous choisissez? Parce que chacune de vos tablettes, il y a une couleur et il y a un nom. Comment vous faites pour associer tout ça?
Il n'y a aucune réflexion là-dedans.
C'est les couleurs disponibles qui restent en magasin.
C'est un peu ça, oui. mes sœurs et ma femme sont beaucoup plus attentives à ce genre de choses, alors que moi, pas du tout. Pour deux raisons. D'abord, je suis moitié daltonien.
Ah, ça facilite pas pour les couleurs.
Oui. Et en plus, alors moi, j'oriente un petit peu, parce que j'ai un truc un peu particulier, c'est que pour moi, les arômes ont des couleurs, les goûts ont des couleurs. L'agressivité, le côté tonique sont des couleurs plutôt qui vont vers le rouge, ou en tout cas ce que j'imagine être le rouge. Et après, l'autre bout de la palette aromatique, c'est sur vert, jaune, et au milieu, il y a plein de couleurs. Oui, des fois, je passe un peu pour une andouille quand je vais dans un restaurant et j'essaye d'expliquer ce que je ressens. Et en général, j'ai droit à des grands yeux ronds ou verts. Les gens comprennent pas de quoi je parle. Mais ça va, je me comprends.
Justement, les restaurants, vous travaillez avec beaucoup de grands chefs. Avant de commencer cette interview, vous me parliez de Jean Sulpice qu'on a reçu il y a quelques semaines. Comment est-ce que vous travaillez avec ces chefs qui ont, j'imagine, une sensibilité commune à la vôtre, même si elle n'est pas forcément exprimée dans le chocolat?
En général, je fais goûter des produits et eux imaginent une recette derrière, où on parle d'assemblage, de goût, et j'essaye de voir ce qui correspond à ce qu'on peut offrir et qui répondent aux attentes.
Mais vous
des
leur
chefs.
Fabriquez sur mesure?
Oui. Oui, j'ai même parfois des parcelles qui sont uniquement dédiées à des chefs, qui en général sont des copains.
Est-ce que partout dans le monde, les gens ont le même goût pour le chocolat? Est-ce que tout le monde aime le même chocolat?
Pas du tout, non. Par exemple, en Amérique du Nord, Amérique du Sud, la base du palais, c'est maïs, épices, fruits. En Europe, on est sur blé, lait, on est sur deux bases de palais qui sont radicalement différentes. Donc, c'est la raison pour laquelle on n'a pas de chocolat d'Amérique du Sud réellement en Europe, et que le chocolat européen est reconnu, mais c'est pas le chocolat préféré des Mexicains, par exemple. C'est pareil pour les vins. Hein. Il y a des vins mexicains, c'est quand même un peu surprenant. Par contre, je refuse de m'adapter. Je fais un produit qui correspond à notre vision des choses, à notre histoire, à notre savoir-faire. Et ça plaît aux gens, tant mieux. Ça leur plaît pas, tant pis. Je transforme pas mes produits pour plaire, non.
Comment est-ce que vous êtes sûr que vous suivez l'ADN de votre père et de votre grand-père quand vous fabriquez?
Bon, d'abord parce qu'on a plein de recettes qui sont les mêmes depuis deux siècles. Au début de ma carrière, quand j'avais des personnes qui venaient, qui avaient 80 printemps bien sonnés, certains pleuraient en disant « c'est le chocolat que me donnait ma grand-mère, je me souviens ». Oui, mais c'est moi qui l'ai fait, il a une semaine, donc a priori... C'est bon, on est dans la ligne.
Ça veut dire que la recette, oui, est restée.
C'est un état d'esprit, vouloir créer du nouveau pour faire du nouveau, c'est une aberration. C'est un petit peu ce qui m'ennuie avec les marchés asiatiques où chaque année, il faut arriver avec 4 produits nouveaux. Je sais pas faire, la nature sait pas faire. Je suis un petit peu caractériel, mais je fais comme je veux. Donc, on a des produits nouveaux, tant mieux. On n'en a pas, tant pis. Mais tant pis pour ceux qui veulent qu'on ait des produits nouveaux. Parce que les clients, au fond, et ça surprend beaucoup les responsables de vente japonais, qui ont l'habitude, par exemple, de voir arriver des produits nouveaux qui vont représenter une bonne partie des ventes. Non, nous, notre clientèle japonaise veut des produits qu'ils achètent depuis 10, 20 ou 30 ans. Les produits nouveaux, c'est anecdotique, c'est rigolo, mais c'est pas ce qu'ils veulent. Chez Bonnard, c'est une espèce de qualité du goût qui est séculaire. Et que j'ai pas envie de changer.
J'ai quelques petites questions pour terminer. Il paraît que vous étiez le chocolat préféré de Jackie Kennedy.
Elle a envoyé plusieurs lettres d'ailleurs. Et un de nos chefs pâtissiers est resté à la Maison Blanche pendant 20 ans, je crois.
Donc vous êtes fournisseur, vous étiez fournisseur de la Maison Blanche.
Alors nous, on a eu la joie d'être à la fois à la cour du tsar et à la Maison Blanche, pas exactement en même temps, mais consécutivement, oui. C'est quand même les deux extrêmes.
Qu'est-ce que c'est qu'avoir un nez de chien?
Ouh, c'est avoir un nez et un palais extraordinaire. Ça, c'est ma fille. C'est Clotilde qui est capable de décomposer une recette en mangeant un truc. Elle va dans un restaurant avec nous, elle goûte quelque chose et elle est capable de donner les ingrédients. C'est extraordinaire.
Elle l'a travaillé ou c'est naturel?
Non, c'est naturel chez elle. Clotilde, si tu m'écoutes, il faut faire plus de vaisselle quand t'as fini de cuisiner, parce que moi, ça me prend énormément de temps. Mais par contre, elle cuisine de manière magique. Elle a réellement un don pour ça.
C'est la seule de vos enfants qui a ce don-là?
Maxime, qui a 5 ans, aime beaucoup faire des gâteaux et surtout les manger derrière. Et oui, il a aussi un palais frappé au coin du bon sens.
Bon, bah, donc la relève est peut-être en marche.
Exactement, oui.
C'est quoi être une entreprise du patrimoine vivant?
C'est une entreprise qui dure et perdure en conservant les qualités qui en font sa stature, si j'ose dire. On n'est pas obligé d'être grand en termes de taille, mais par l'esprit, oui.
Est-ce qu'il y a une géopolitique du chocolat comme il y a une géopolitique de l'énergie?
Oui, le chocolat est, je crois, le 9e ou le 11e produit agricole le plus récolté sur la planète. C'est le 2e le plus joué en bourse.
Combien est-ce que vous mangez de tablettes par jour et est-ce que ça reste encore un plaisir?
Alors officiellement, je m'applique...
À ne manger qu'un kilo par jour?
Ouais, c'est à peu près ce que je mange. Officiellement, non. Je suis censé me rédimer parce que là, j'ai arrêté de courir ou de faire des trucs comme ça parce que j'avais un peu un emploi du temps de fou. Mais non, j'y arrive pas. En fait, il y a certains chocolats que j'ai interdit de mettre sur le chemin qui mène à mon bureau parce que j'en prends toujours 3 ou 4 avec moi.
Comment ça s'explique ? C'est quoi ? C'est une dépendance ? C'est un besoin physiologique ? C'est une dépendance intellectuelle ? C'est quoi ?
Non, j'aime ça. Non, non, je goûte. Tout ce que je fais, je goûte. C'est effrayant.
Alors, quand on vous voit, on dirait pas.
Oui, mais parce que je dors peu. Mais non, mais plus sérieusement, oui. Quand je pars en voyage, je dis, allez, on prend une tablette par jour, ça va. Et puis, ma femme dit, mais on part combien de mois là ? Ben, on part 15 jours. Ça fait, elle m'a dit, ben, normalement, 15 jours, ça fait 15 tablettes. Mmh. Ben, on fait pas 40 ou 50. Oui, mais des fois, si on croise des gens qui connaissent pas...
Ah ben, faut donner des produits par groupe.
Exactement.
Les gens goûtent.
On en donne pas beaucoup. Hein.
D'accord. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est élu meilleure tablette de chocolat du monde ?
Beaucoup de fierté, mais c'est une fierté partagée.
Combien y a de gens qui travaillent chez vous ?
On est un peu plus d'une quarantaine de personnes. On n'est pas très nombreux. Alors, en France, enfin, à Voiron, c'est un travail collectif. C'est à la fois les planteurs, c'est également notre transitaire qui fait quand même super attention que notre cacao ne soit pas contaminé par des parfums d'autres choses. Il y a tout le monde à la chocolaterie, nos revendeurs, c'est un travail collectif. Moi, je suis juste moi, je suis un cinquième roue du carrosse. Je suis là parce que je me suis perdu, j'ai vu la lumière, je suis rentré.
Est-ce que vous auriez pu faire un autre métier ?
Astronaute, mais si on avait des vaisseaux spatiaux qui pouvaient aller loin, ça m'aurait beaucoup plu.
Vous voulez aller sur Mars avec Elon Musk planté
Non, peut-être quelqu'un d'autre, parce que je pense pas qu'il ait des super sujets de conversation rigolos. Non, j'aimais bien le côté aventure.
Mécanicien et plagiste.
Oui, c'est vrai.
Mais Camille, en fait, c'est parce que vous adorez la moto, c'est ça ?
Ah oui, ouais. La moto, c'est... Alors là, pour le coup, la moto, c'est ma passion. Depuis que j'ai 13 ans, je crois. Au début, j'étais obligé... Enfin, quand je les achetais, j'achetais des motos pas chères parce que j'avais pas de sous. Mais j'étais obligé de les cacher. Alors, c'était toute une organisation.
Chez les parents des copains, parce
Exactement,
que vos parents n'étaient pas tellement pour que vous fassiez
ah,
la moto.
Moi, ils ne voulaient pas. Quand j'ai passé mon permis moto, ça a été... j'ai cru que le monde s'effondrait. Ça, c'est ma passion. Les deux roues, mais depuis tout petit. Et puis le ski, mais enfin, quand je me suis cassé la colonne vertébrale, le ski, ça a été un peu plus compliqué. Bah, je faisais plein de trucs super délicats, comme j'ai fait une soirée en parachute, j'ai fait... Je suis un petit peu hyperactif quand même. Et il faut qu'il y ait toujours quelque chose de nouveau, il faut qu'il y ait de l'imprévu, il faut essayer de se dépasser, Et c'est un peu ça dans le cacao, en fait. Parce que le cacao, c'est le grand inconnu. On va dans des coins extraordinaires. Moi, je découvre
le
cacao.
Vous voyagez 5 mois par an, quand même, il faut expliquer. Vous êtes
oui,
pas
oui,
toujours
alors, je ne suis pas absent 5 mois par an, mais 5 mois par an, je me déplace, oui, oui.
La devise de votre maison, c'est ce qui fait du bien au palais ne fait pas de mal à l'âme.
Oui. C'est pas mal, hein. On remonte à 2 siècles en arrière. Hein. Se faire plaisir en mangeant, c'est pas bien. En fait, il y en a deux. Il y a la devise de David Le Voiron qui est ma force dans mon travail. Mais chez Bona, c'est oui, ce qui fait du bien au palais ne fait pas de mal à l'âme. En plus, on est en face de l'église, donc c'est difficile de pas avoir une espèce de lien de cause à effet.
Est-ce qu'il y a une chanson ou un morceau de musique qui vous accompagne, que vous aimez bien ? Que vous écoutez souvent ?
Non, j'écoute beaucoup de musique, tout le temps. Et c'est assez éclectique. Hein. Aussi bien, pas trop souvent, du classique que du métal. Il faut que ça bouge. Hein.
Merci à Baptiste Dupin pour l'enregistrement de cet entretien et à Mathieu Roque-Lago pour la production de l'épisode. Merci également aux équipes de Radio Classique qui valorisent ce podcast. On se retrouve dans 15 jours.